Prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure, la vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait, voici leur histoire.
J'aimais ce que je faisais auparavant, ça c'est indéniable. Mais effectivement, grâce à cette reconversion, j'ai plus peur. Ouais, j'ai appris vraiment à m'écouter et puis à laisser parler mon cœur, à laisser... Voilà, tout ressort aujourd'hui et c'est une vraie, vraie découverte.
Fondre l'armure et oser aller au bout de ses passions. C'est le long chemin parcouru par Véronique Ribeaucourt ces dernières années. Contrôleuse de gestion dans un grand groupe, elle se rend compte, un jour, qu'elle est arrivée au bout de ce chemin. Au cours d'un bilan de compétences, Véronique prend conscience qu'elle peut faire de sa passion l'occupant tous les week-ends son nouveau métier. 3 ans après sa reconversion, elle nous raconte son quotidien d'entrepreneur et son éclosion telle une rose, comme elle se plaît à le dire.
Je viens d'une ville de Picardie qui s'appelle Saint-Quentin, où j'ai grandi, je suis allée au collège, au lycée. Alors moi, je suis fille unique et j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'affection de mes parents. Tous les deux étaient ouvriers. Mon père chez MBK et ma maman était confectionneuse et a travaillé après en boutique en tant que retoucheuse. Et mes parents ont beaucoup cru en moi et ils ont souhaité que je fasse des études. Ils m'ont donné cette possibilité-là et je les en remercie tous les jours. J'ai fait un DEUC d'économie et gestion et j'ai enchaîné par une maîtrise d'économiste d'entreprise. Et j'ai fini avec une spécialité de contrôle de gestion à l'université Paris-Dauphine.
Et ensuite, vous avez travaillé où ?
J'ai travaillé pendant 25 ans dans le contrôle de gestion. J'ai démarré dans ce domaine parce que je suis quelqu'un de passionné, je suis instinctive. C'est un domaine extrêmement enrichissant. On doit comprendre les rouages complets d'une société. Comprendre là où ça fonctionne et là où il y a des dysfonctionnements. J'ai démarré en tant que contrôleur de gestion et j'ai terminé en tant que responsable du contrôle de gestion. Je pense que j'ai arrivé au bout d'un chemin. Je suis quelqu'un de passionné, d'investi, de très investi. Et je pense que voilà, c'était la fin d'une histoire. Il fallait enchaîner sur une autre. J'ai été accompagnée dans le cadre d'un coaching.
Vous pourriez un peu nous raconter ce moment, cette étape déterminante ?
Alors en fait, quand j'ai commencé mon coaching, j'avais la connaissance des process d'une entreprise, d'une organisation, des process financiers. Et j'étais légitime pour accompagner des chefs d'entreprise, de petites ou moyennes entreprises ou plus importantes. Mais je n'étais jamais pleinement satisfaite de cette idée. Et à chaque fois, je revenais toujours à ma passion, donc la passion des bijoux. Chercher, chiner, trouver l'objet, trouver le bijou atypique qui me ressemblait. C'était un petit peu ma soupape. Je connaissais quelques antiquaires et je passais très très souvent chez eux pour découvrir leurs nouveaux objets. Un soir, dans le métro, je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas mon métier ? C'est comme ça que ça a démarré et très rapidement, en fait... Ça s'est clarifié dans ma tête. J'ai très vite, une fois que j'ai compris que je voulais travailler pour moi, m'offrir cette possibilité de créer mon entreprise, c'est parti vraiment très très vite. Je savais les étapes par lesquelles je devais passer. Et ça s'est fait en fait en 5 mois, j'avais lancé l'histoire. Quand j'ai décidé de faire la formation, je crois que c'était un mercredi, j'ai appelé l'Institut National de Gémologie, l'ING à Paris. Et justement, il y a une formation qui démarrait la semaine suivante et il y avait encore une place de disponible. Et donc, j'ai posé ma candidature et le lundi suivant, je démarrais ma formation en gémologie.
Les styles, les périodes, les matières.
précieuses et moins précieuses. Donc précieuses, ça va être des bijoux en or, en platine, en argent. Et puis j'en avoir dans des matériaux moins nobles, comme le laiton. Voilà. Après les pierres, je vais avoir des pierres précieuses. Donc, je vais partir du diamant, je vais avoir toutes les précieuses, diamants, saphirs, rubis, émeraudes. Et je vais avoir des pierres moins précieuses, les pierres fines. Il y a pas mal de matériaux aussi, suivant les époques qui étaient en vogue. Comme là, j'ai un bracelet, celui-ci. Alors, j'aime beaucoup un bracelet bleu. Il est en pâte de verre bleu électrique. Et le montage articulé est en chrome. Donc ça, c'était typique. Ça pouvait être typique aussi de l'époque Art déco, donc les années 40. La gémologie, l'étude des pierres, c'est un monde fabuleux. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Ça a été une véritable découverte. Comme tout le monde, je regardais une pierre, elle étincelle. Mais en fait, vous prenez votre loupe et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur d'une pierre. Toute la vie en fait d'une pierre, hein, toutes ces inclusions, pour moi, c'est une véritable poésie.
Comment ça s'est passé un peu cette période de transition, les réactions des gens autour de vous ?
Les gens étaient quand même très très étonnés d'un tel changement de situation. La plupart des gens qui étaient avec moi en formation étaient dans une certaine continuité. Il y avait des commissaires-priseurs, des vendeurs dans le luxe qui voulaient vendre de la bijouterie. Quand ils ont entendu mon parcours, ils étaient vraiment très très étonnés d'un tel changement. Là, c'est un changement très très radical. La plupart de mes amis étaient très emballés, étaient enchantés pour moi. Il y a peut-être mes parents qui étaient un peu plus anxieux. Ils le sont toujours, voilà, parce qu'il y a moins de... Il y a une forme d'insécurité, il y a une forme de risque. Et c'est une génération qui n'aime pas le risque. Ils préfèrent le confort d'un CDI plutôt que d'être entrepreneur. En ce moment, la conjoncture est particulièrement complexe. En plus, j'ai une cinquantaine d'années. Voilà, il y a plusieurs risques pour eux, trop de risques. C'est un véritable obstacle pour moi. En tout cas personnellement, parce que je suis très attachée à mes parents. Et le regard de mes parents, ça, c'est pour moi très très important.
Comment vous avez géré ces appréhensions de vos parents ?
Je leur ai beaucoup expliqué. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était difficile de les changer. C'est très difficile, on est paramétrés d'une certaine façon et ils le sont. Et j'ai beau leur expliquer, bon, je pense qu'au fur et à mesure, ils se rassurent. Mais voilà, maintenant, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'avance. Et j'y crois, et voilà, j'ai envie de connaître la suite de mon histoire. Et je suis partie maintenant dedans, je ne peux plus m'arrêter. Je me suis lancée dans mon projet en avril 2021. Alors le projet, c'était de chiner et de présenter des bijoux atypiques. Et je voulais un lieu aussi très inspirant et j'ai trouvé un lieu qui me ressemblait. Donc aujourd'hui, je suis à Versailles, au Carré des Antiquaires.
Comment vous avez découvert ce magnifique lieu, au Carré des Antiquaires ?
Alors c'est en discutant avec mon cousin. Il me dit, va voir ce lieu à Versailles, ce Carré des Antiquaires, ça serait bien pour toi. Et effectivement, j'ai découvert le lieu. Et là, je me suis dit, mais ça me ressemble tout à fait. Il y a ce côté poétique, il y a ce côté intemporel, il y a ce côté, je ne sais pas, quelque chose de magique. Là, j'installe quelques bijoux, tout ce qui est or. Tout ça, ça appartient à un autre siècle. Ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça date du 18e siècle. En fait, c'était un objet pour les tout petits enfants. En or.
Pour faire les dents ?
Oui.
D'accord.
Et moi, je l'ai transformé en pendentif. Je vais avoir un négligé aussi. C'est typique Art Nouveau. Donc le négligé a une partie rapprochée et deux pampilles ou deux pendants. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ?
Et je vois aussi des belles boucles d'oreilles et bagues.
Alors là on est sur quelque chose de 20e, fin du 20e. Des boucles d'oreilles tout en diamant. Et là, je vais avoir une pièce Mauboussin, donc avec les boucles d'oreilles. Donc, on a un pendentif. Donc, c'est de la topaze.
Ouais, la pierre bleue, là.
C'est... Topaze, et avec une cordierite ou une hyolite, bleu mauve. Donc, avec un montage sur or gris 18 carats. Et on a les boucles d'oreilles qui vont avec. Ça date des années 90. Donc c'est vraiment, je parcours les siècles. On part du 18e, on va jusqu'au 20e. Je ne savais pas du tout comment trouver une galerie. Et en fait, j'ai appelé une agence immobilière et je suis tombée sur une dame qu'aujourd'hui j'appelle ma fée, une agent immobilière, mais qui s'occupait des hôtels particuliers. Et en fait, elle m'a trouvé le lieu. Elle me l'a trouvé. Elle m'a trouvé la galerie. Et c'était pas le fruit du hasard. C'était vraiment la suite de mon histoire.
Dans quel état était l'espace quand vous l'avez découvert la première fois, avec la verrière, la très grande hauteur sous plafond
Oui, c'est un lieu magique en fait. Ce sont les anciennes geôles du roi. Alors moi, mon lieu, effectivement, c'est une verrière. Donc ça, c'est la galerie fait à peu près 15 mètres carrés. Donc c'est petit, mais largement suffisant pour des bijoux. Quand je l'ai découverte, c'était la remise du restaurant qui est juste en face de moi. Donc les murs étaient en parpaing. Donc c'était pas très, très engageant. Et j'ai fait appel à une de mes amies architectes d'intérieur qui s'appelle Nina. Je lui ai fait découvrir le lieu et je lui ai expliqué ce que je souhaitais. Et les travaux de la galerie ont démarré en juillet. Et elle a réalisé vraiment quelque chose qui me correspond, mais tout à fait. Donc on l'a fait ensemble. On a choisi la décoration, on a choisi les peintures, on a choisi les meubles, le mobilier. Et elle a vraiment réussi à concevoir exactement ce que je voulais. Et j'ai ouvert la galerie précisément le 24 septembre 2021.
Ah, c'est Élodie.
C'est votre amie, hein ?
Oui. Bonjour Véronique.
Bonjour Élodie.
Bonjour.
Je m'appelle Élodie Schmitt, je suis créatrice de robes de mariée et tenues de mariage sur mesure à Versailles. J'ai découvert la boutique de Véronique et son univers dans un premier temps sur les réseaux sociaux, sur une page Instagram, puis sur un article de journal. Et j'ai été tout de suite attirée par son univers, la façon dont elle présentait ses bijoux. Et donc je suis tout simplement venue la voir à sa boutique et puis nous avons fait... connaissance et voilà, j'ai tout de suite accroché sur son style, les bijoux qu'elle présente, sa sélection, son goût, la manière dont elle présente les bijoux, son univers. C'est son âme en fait, c'est l'âme de Véronique au travers de ce magasin, c'est sa façon d'être, de penser, de faire ses propres choix qui sont certainement moins conditionnés par ce travail-là que le travail qu'elle faisait auparavant, qui ne lui laissait pas une liberté d'expression comme elle peut en avoir une aujourd'hui.
Ça m'a pris du temps à trouver le nom de la galerie, plusieurs semaines. Je cherchais en fait un nom qui raconte quelque chose en rapport avec l'histoire, avec... Et vraiment impossible de trouver. J'ai des amis qui me proposaient aussi des noms. Et puis un matin, je me suis levée et j'ai pensé à quelqu'un qui m'était très cher, et en l'occurrence qui était ma nourrice, et qui s'appelait Madeleine. Et la Madeleine, on pense à la Madeleine de Proust. Il y a l'histoire, il y a le goût de la Madeleine. En fait, il se passe plein de choses autour de ce prénom. Et voilà. Et je me suis dit, ça va être lui, Ça va être ce prénom que je vais utiliser pour ma galerie. D'ailleurs, c'est un des prénoms aussi de ma fille.
Elle vient à la boutique essayer les bijoux ?
Alors oui, elle vient souvent à la boutique. Je pense surtout pour partager du temps avec moi. Il y a des choses un petit peu compliquées parce que quand on arrive dans un nouveau milieu qu'on ne connaît pas, bien sûr, j'ai tout mon passé, toutes mes connaissances, mais je ne connaissais pas du tout le milieu des antiquaires, même si voilà, j'allais acheter chez des antiquaires, mais j'ai été particulièrement bien accueillie. Je remercie beaucoup les antiquaires. Après, c'est faire son réseau. Comment trouver les bijoux ? Ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend au fur et à mesure. Le métier du commerce aussi, c'est quelque chose que moi, je ne pratiquais pas. Donc, il y a pas mal de choses à apprendre. Après, il y a toute la partie administrative, bien sûr. C'est quelles sont les démarches pour s'installer. On le fait en direct et sans avoir appris. De temps en temps, j'ouvre un livre, mais... À un moment, il faut faire sa propre expérience et avancer pour apprendre le métier.
Comment vous avez fait pour le construire, ce réseau, pour avancer et trouver votre place ?
C'est du temps et c'est de la confiance. Enfin, il faut montrer quelque part une patte blanche. Donc les conseils arrivent petit à petit. Et après, il faut aller les chercher aussi. Il faut aller chercher les idées, il faut... questionner, écouter. Mon métier d'avant, c'était ça, en fait. C'était d'aller chercher les informations. Et c'est essentiel. Et en fait, c'était ça le plus compliqué. C'était s'adapter pour justement pouvoir rentrer dans ce milieu des antiquaires. Ça m'a pris quand même beaucoup, beaucoup de mois pour arriver quand même à faire un réseau autour de moi. Il a fallu que j'aille jusqu'à Londres, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et j'ai fait la rencontre d'une jeune femme, gémologue elle-même. Et de là, en fait, elle m'a présenté à des bijoutiers. Et c'est avec ces personnes qu'aujourd'hui, je travaille.
C'est convivial dans cet espace.
Oui, c'est très convivial. Globalement, ça, on s'entend bien. Il y a une bonne ambiance. Alors après, il y a des caractères, mais globalement, on s'entend très bien.
Comment vous avez réussi à monter votre affaire, entre guillemets ?
Alors, pour monter ce type d'activité, il faut quand même bien poser... financièrement la situation. Soit effectivement on se fait accompagner de l'extérieur, soit on a les fonds nécessaires pour démarrer l'activité. Moi j'ai bénéficié d'une sortie au niveau de mon travail. Avec cet argent, en fait, j'ai pu lancer mon activité. Donc j'avais les moyens pour pouvoir me lancer. Aujourd'hui, je suis inscrite à Pôle emploi qui m'accompagne et je touche des indemnités. Moi, j'ai choisi en fait de garder mes indemnités pendant 24 mois. Parallèlement, j'aurais pu bénéficier d'un prêt auprès d'une banque, mais aujourd'hui, c'est un sujet vraiment très, très, très difficile. Les banques accordent de moins en moins de prêts. Donc... c'est vraiment le sujet, c'est comment financer son business. On peut avoir plein d'idées, mais il faut avoir les moyens financiers derrière pour assurer.
Est-ce que c'est difficile de passer du statut de salarié à entrepreneur en étant indépendant ?
C'est extrêmement différent. Ouais, je vous apprends rien, c'est très très différent. Après, c'est vraiment, pour moi, c'est une mentalité. Je pense qu'il faut avoir confiance, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lâcher, il faut être un petit peu inconscient pour se lancer dans ce type d'aventure. Quand on a un CDI, tout est plus ou moins balisé. Quand on est entrepreneur, il n'y a plus de balises, on est sur un chemin et parfois on se dit ça va pas assez vite, comment je vais faire pour m'en sortir. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que je gagne suffisamment pour m'autosuffire. Aujourd'hui, je suis aidée par mes indemnités, mais d'ici peu, j'aurai plus d'indemnités et il va vraiment falloir que j'apprenne à marcher seule. Ça met pas mal de pression, mais c'est une pression positive pour ne pas perdre de temps. Et généralement, on dit que pour monter un business, c'est 3 ans et je confirme effectivement, moi j'en suis à presque 2 ans. Mais là, je suis vraiment au milieu du guet, il faut vraiment... Rien lâcher et jamais se reposer sur ses lauriers, toujours se remettre en question. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat, c'est de la liberté, mais c'est beaucoup de remise en question. Parfois, il y a des doutes. Moi, j'ai la chance d'être aidée aujourd'hui par mon conjoint. Lui-même est entrepreneur, il est maître d'œuvre, il travaille en libéral. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'idées. Il croit beaucoup en moi et aujourd'hui, il m'aide aussi dans mon projet. J'imagine des bijoux, lui, il les réalise en CAO, il dessine. Voilà, c'est des stimulants qui font que ben, voilà, ça prend une autre tournure. J'ai tellement été cartésienne, j'ai jamais laissé aller ma créativité. Et en fait, depuis que j'ai la galerie, je me suis laissée porter, laisser aller mes émotions et de là aujourd'hui j'arrive à créer des choses. Il y a des choses voilà qui s'animent quand je vois une pierre, quand j'ai un échange avec une personne, j'ai l'impression que je vois l'objet.
J'ai le sentiment que vous vous êtes découverte avec cette reconversion.
Tout à fait, j'étais dans un espèce de carcan, j'étais bien, hein. J'aimais ce que je faisais auparavant, ça c'est indéniable. Mais effectivement, grâce à cette reconversion, j'ai plus peur. J'ai plus peur et je m'accorde les choses. Ouais, j'ai appris vraiment à m'écouter et puis à laisser parler mon cœur, à laisser... Voilà, tout ressort aujourd'hui et c'est une vraie, vraie découverte. J'ai du mal à l'exprimer parce que c'est instinctif en fait, c'est très instinctif. Et je savais déjà que j'étais très instinctive dans mon métier précédent, mais je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Et je ne sais toujours pas jusqu'où je peux aller. Un diamant, il a entre 3 et 4 milliards d'années. Dans nos tiroirs, on a peut-être la bague de l'arrière-grand-mère qui n'est plus utilisé et refaire vivre ce diamant, refaire vivre ce bijou ou alors le transformer. C'est ce que je propose en plus. Donc ça, c'est la nouvelle corde à mon arc, c'est de proposer des créations de bijoux à partir de bijoux qu'on a ou partir de rien, mais partir d'un projet.
Et sur les bijoux que vous créez, vous devez les faire poinçonner?
Alors, parfois, j'ai des bijoux qui arrivent jusqu'à moi, donc des bijoux que je vais chiner ou des bijoux que je peux racheter, qui arrivent sans poinçon. Et donc, il y a une obligation de poinçon sur un bijou, sur un métal précieux, donc or, platine, argent. Quand on crée des bijoux, il faut systématiquement, pareil, les faire poinçonner. Donc là, il y a 2 poinçons. Il y a un poinçon qui donne le nombre de carats et un poinçon de bijoutier.
Vous savez quand est-ce que vous allez avoir ce poinçon de bijoutier ?
Je ne l'ai pas encore, justement, je suis dans les démarches. Il faut emmener, il faut emmener 3 projets de poinçons aux douanes et qui font des recherches. Donc, en fait, il faut qu'il soit unique, ce poinçon. Et une fois qu'il valide, j'ai mon poinçon. Donc là, c'est en cours. Donc, j'ose espérer, à la rentrée, avoir mon poinçon de bijoutier. Normalement, le poinçon va représenter une rose et mes initiales. Et la rose, en fait, c'est le symbole de l'éclosion de mon parcours de vie. Ça représenterait vraiment le début de l'histoire et la rose qui s'épanouit.
Thank you. C'est quoi votre rythme aujourd'hui ?
Alors, effectivement, c'est un autre rythme. Mais en gros, je vais dire que je travaille 7 jours sur 7. Mais pas de la même façon. La galerie est ouverte du jeudi au dimanche. Je devrais m'accorder à minima le lundi pour me poser. Alors de temps en temps, je le fais. Mais à partir du mardi, du mercredi, soit je chine, soit je fais toute ma partie administrative. Aujourd'hui aussi, je travaille avec mes artisans, je crée, je viens changer les vitrines. C'est faire la promotion aussi de la galerie, donc travailler les réseaux sociaux. J'espère à terme avoir un site. À côté de ça, y a toute la partie facture, enregistrement des factures, suivi de mon stock. Y a la partie création des bijoux, il y a la partie transformation des bijoux. Enfin, mes semaines sont vraiment, vraiment très, très courtes et j'ai vraiment très, très peu de temps, très peu de temps pour moi. Il y a toujours 10 000 choses à faire. J'espère à un moment quand même reprendre un rythme un peu moins soutenu. Mais bon, je pense que quand on part dans l'entrepreneuriat, on n'a plus vraiment de limite. Mais il faut savoir quand même en poser parfois.
Est-ce que vous avez des déconvenues dans votre parcours ?
Il y a beaucoup de démarches administratives et c'est très complexe. Ça, on le sait, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, donc il y a énormément de démarches et on apprend au fil de l'eau. Quand vous vendez des matériaux précieux, il faut avoir une déclaration d'existence. Et pour le coup, en fait, je ne l'ai pas faite au début. Je m'en suis rendu compte au fil du temps, heureusement. Voilà, donc il faut se renseigner. Moi, je suis peut-être partie un peu rapidement. Il faut apprendre et poser des questions. Poser beaucoup, beaucoup de questions. Moi, ça, c'est quelque chose que je sais faire. Mais c'est ce que je préconise à toutes les personnes, c'est de travailler bien son sujet en amont. Mais à un moment, on ne sait pas tout. Ben, c'est pas grave. C'est, de toute manière, c'est en se trompant qu'on apprend et qu'on est meilleur.
Est-ce que vous êtes fière de vous, heureuse de votre nouvelle vie ?
Alors oui, je suis très heureuse de ma nouvelle vie. Je ne regrette rien. C'est une sacrée expérience, une super aventure. Et si je suis fière, oui, je le suis. Je le suis parce que c'est vraiment... tout s'est fait quand même très rapidement. J'en suis à quelque chose quand même qui commence à bien tourner. Je commence à être reconnue par ma clientèle, je commence à être connue. J'ai osé le faire, beaucoup aimeraient le faire, mais c'est difficile de passer le pas et d'être capable de tout plaquer, parce que c'est quand même le sujet, de tout plaquer et de recommencer quasiment à zéro. Il fallait oser et je l'ai fait. Quelle que soit l'issue, bonne j'espère, je n'aurais jamais aucun regret, au contraire, je suis tellement heureuse d'avoir de faire cette aventure, de mener cette aventure. C'est unique dans une vie et j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à enclencher ce type d'aventure.
Merci.
Nous remercions Véronique et lui souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle carrière. À bientôt pour un nouvel épisode de J'ai tout plaqué, un des podcasts d'Orange pour les pros.